Fréquence Mistral.
Salut à toutes et tous, auditeurs et auditrices de Fréquence Mistral. Vous le savez, ici même dans nos studios de Marseille, on a le plaisir de voir passer tout ce qui fait vivre notre culture marseillaise et surtout tout ce qui fait palpiter nos âmes. On a la chance aussi d'avoir des compagnies de théâtre qui viennent et qui nous présentent leurs bébés, puisque leurs enfants, aux compagnies de théâtre, c'est leur pièce et leur première pièce, c'est toujours très très important. Et aujourd'hui, on a la chance de recevoir la compagnie d'une en la personne de Michael Bourse qui vient présenter un premier spectacle, donc le Cartable Rouge. C'est un spectacle à destination des enfants, mais pas que. Et on accueille dans nos studios Michael. Bonjour Michael.
Bonjour, merci beaucoup. Hein.
Avec grand plaisir Michael. Bah écoute, t'as encore plus une voix de radio que moi, c'est incroyable. T'as une voix incroyable pour la radio.
On m'a déjà dit ça quelques fois, mais c'est très difficile d'avoir accès à tout ce qui est voix off, etc. Mais ça donne envie, effectivement, quand tu t'entends
et
comme ça.
Écoute, je pense que si quelqu'un nous entend là actuellement, Michael a clairement une voix pour faire des publicités à la radio.
C'est parti.
Donc Michael, je l'ai dit, tu représentes la compagnie Bourse.
Compagnie d'une, mais je t'en prie, c'est,
ouais, c'est vendredi.
J'ai pas osé le faire, tu vois, en tant que, tu vois, le côté égocentré. Bon, oui. On fait bon.
Ça aurait été cool quand même.
Mais ça marche toujours, le Bourse Quartet, tout ça.
Donc la compagnie d'une, qui est une jeune compagnie, puisque vous avez 2 ans d'existence.
Alors en fait, exactement, on a un peu plus que ça, on a 8 ans d'existence.
Ah oui, bah mes informations sont excellentes.
Non, il n'y a pas de souci, mais effectivement, par contre, ça fait 2-3 ans qu'on est sur ce spectacle, donc le Cartable Rouge, qui est en fait pas réellement notre premier spectacle.
Toutes mes informations sont mauvaises.
Non, mais je t'en prie, parce que je reponctue des trucs qui vont dans ton
mais
sens.
Mais t'as complètement raison de le...
Qui font qu'en fait, c'est officiellement notre première création, officieusement la deuxième, parce que la première, malheureusement, n'a pas pu aboutir à cause du Covid, tout simplement.
Ah, oui.
C'est-à-dire qu'on a créé la compagnie et l'association qui la supporte en 2017-18, et en 2020, au moment où c'est le feu de partout, et nous, on est en train de finaliser notre première création, qui est un peu ambitieuse techniquement, etc. Et du coup, on n'a pas du tout l'opportunité de l'aboutir, de la faire jouer. Une fois que tu perds l'élan, c'est fini, tout est saturé, les vieilles compagnies sont dessus, bref. On n'avait plus qu'à repositionner un peu notre plan d'attaque et du coup, c'est comme ça qu'on est reparti sur cette nouvelle création qui est, pour te confirmer tes informations, la réelle première du coup.
Eh ben voilà, moi j'avais des informations, mais il ne faut pas oublier que je suis animateur et pas journaliste, donc voilà, j'ai le droit
tout
aux erreurs, contrairement aux journalistes actuels qui en font tous les jours aussi.
Ah oui, ça c'est un autre sujet.
Bien, maintenant, j'envoie la flèche sur les autres. Donc, Michael, pour présenter ce premier spectacle qui se nomme donc, là je ne me trompe pas, normalement, Le Cartable Rouge, c'est un spectacle qui vient parler de l'enfance. Si j'ai bien compris, c'est un spectacle où il y a du clown, du cirque, c'est quelque chose de très physique, mais aussi quelque chose qui demande beaucoup de régie, parce que de ce que j'ai compris, il y a énormément d'effets sonores dans ce spectacle.
Oui, tout à fait. Alors, en fait, on a cherché réellement, c'était vraiment l'axe de travail artistique, que de faire un assemblage entre gestes et sons, en fait. Donc, vraiment de se dire, on va partir effectivement dans cet univers, notamment cartoonesque, qui est très Coyote et Bip Bip, enfin voilà, tout ce qu'on peut avoir en tête, qui est très en 2D, qui est des personnages qui se courent après généralement, etc., et qui sont souvent ponctués justement de façon sonore, avec des musiques, quasiment avec des changements toutes les 10, 20 secondes, c'est très très rythmé. Et donc on essayait d'aller vers ce parti pris artistique, pour ensuite le remplir d'une histoire, d'un fond, d'une trame narrative et d'une ligne rouge, qui soit du coup l'histoire de ces deux personnages, effectivement, qui se rencontrent au sein de cette école, et qui, a priori, ont rien pour devenir des amis, mais au-delà de leurs différences, vont trouver des points de connivence qui vont les faire devenir effectivement proches petit à petit. Voilà.
Ouais, parce que dans cette pièce, donc, si je me trompe pas, c'est Matteo et Ludovic, donc deux enfants qui se retrouvent et que tout oppose, mais qui se retrouvent dans l'adversité, qui vont apprendre à coopérer justement dans cette rentrée scolaire mouvementée.
Oui, carrément. En fait, on a clairement voulu un peu extrémiser et caricaturer deux personnages qui auraient vraiment rien à voir. On a un introverti qui a un peu peur des autres, parce qu'en plus, il y a un peu de partie bizutage, etc. Donc, il vit vraiment la violence et la brutalité qui peut exister parfois, malheureusement, dans les cours de récréation. Donc c'était un peu pour parler de ça en toile de fond, c'est pas le sujet principal du spectacle. Et à l'inverse, on a un Ludovic qui lui est totalement extraverti, mais quelque part qui n'a pas grand chose à faire de l'école, qui se sent pas concerné en fait par le système éducatif. Donc c'était aussi pour questionner ça aussi, entre guillemets dans les deux sens, quelqu'un qui est très envieux d'apprendre, qui a faim, qui est curieux, mais qui à l'inverse ne va pas trouver sa place socialement, et à l'inverse quelqu'un qui ne va pas trouver sa place dans le système éducatif et dans l'apprentissage, et dans le sens que ces données-là peuvent avoir pour lui en fait dans sa vie concrète et immédiate. C'est un peu ça, quoi. Ça me sert à quoi? Enfin, je pense qu'on se l'est toutes et tous beaucoup dit. Qu'est-ce que je fous là et à quoi ça sert? Et par contre, qu'il y a la pression parentale justement pour répondre à ça en mode voilà, si t'as des bonnes notes, tu pourras après aller jouer, parce que lui adore aller jouer. et qui est plus à l'aise, on va dire, socialement, mais qui va aussi rencontrer des problématiques. Du coup, c'était vraiment, en fait, quand je dis différent, c'est réellement, en fait, de comment l'autre peut nous apporter quelque chose d'autre qui nous manque à nous-mêmes et qui nous complète et qui nous aide, en fait, à nous enrichir. Et, en fait, c'est vraiment cette histoire-là, c'est effectivement deux personnages qui ont tout intérêt à ouvrir leur intimité, même avec la frayeur et la peur que ça crée, pour accueillir l'autre, pour s'enrichir justement de l'autre et de ce partage en fait à faire mutuellement quoi.
Et toi Mickaël, est-ce que tu interprètes donc l'extraverti ou l'introverti ?
Moi j'interprète l'introverti.
Ok, ouais. Donc c'est un rôle où on vient à la fois jouer l'enfance et l'introversion. On dit introversion ?
Oui, ouais, moi, carrément.
Ça se dit,
ouais. tout à fait, ouais. Alors du coup, t'as raison, il y avait ces deux parties, c'est-à-dire à la fois incarner des enfants pour nous qui n'avons pas du tout 8 ans, 10 ans, etc., puisque c'est dans une école primaire. Donc corporellement, le spectacle parle pas du tout, c'est aussi important de le dire.
Ah d'accord, j'avais posé la question sur la voix justement.
Je t'en prie, ouais, carrément, ça en fait partie parce qu'effectivement c'était un peu des trucs où ça crée ce théâtre physique où vraiment c'est le corps qui exprime jusqu'au bout des ongles, jusqu'au bout des doigts. Donc là vraiment ça nous demande des postures, des photographies presque tour à tour dans les tableaux du spectacle très clairs pour qu'on comprenne effectivement la psychologie des personnages du coup tout au long des pièces et des situations qu'ils vivent et nanana ils traversent. Donc bon, on est à quelques mots mais c'est vraiment pas la priorité de la chose. Et du coup donc il y avait cette corporalité des enfants plus évidemment voilà, c'est-à-dire comment on va dans ces couleurs là de l'extraverti, comment on se le visualise, l'introverti, comment on se le visualise, et du coup comment on va les former, les modeler nous avec nos corps sur scène pour que sans qu'on fasse « il était une fois deux enfants qui étaient », etc. Bon, on est toujours un peu aidé du prompt de base et du petit scénario qui précède en général l'accueil par le public de ces choses-là. Mais comment on comprend directement de quoi il est question et de quelle situation en fait il s'agit quoi.
Ouais. Sachant qu'en plus, il faut que ça soit accessible à des enfants à partir de 5 ans, si je me trompe
pas. Tout à fait. Alors là, on ne savait pas trop comment le préciser au niveau âge, parce que étant donné en fait la non-parole, on pouvait penser s'adresser à un plus grand nombre. C'était vraiment le but de le rendre ça hyper accessible et de l'adresser aussi au public plus âgé, donc aux parents, aux grands-enfants qu'on est tous et toutes. Là-dessus, je pense vraiment qu'est-ce que c'est important aussi de le dire. Mais en fait, c'est la longueur aussi qui nous a un peu créé cette chose-là de dès 5 ans, c'est-à-dire à la fois, faut pas faire trop long, parce que l'attention, évidemment, pour les enfants. Donc, bon, on était un peu...
Pour les adultes aussi. Hein.
Pour les adultes aussi. Moi, je me disais, bon, moi-même, au bout d'une heure, en général, en théâtre, si on me prend pas, je suis un peu en mode, bon, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, j'espère que la demi-heure est un défi, quoi.
L'entracte après les 2 heures.
Voilà. Allons-y, mais j'espère qu'il y a des belles promesses, alors, parce que sinon... Mais oui, c'était le but. Et en fait, on a eu plein d'idées. En fait, on savait pas trop quand on a commencé à écrire comment on allait pouvoir... qu'est-ce qu'on allait trouver en fait dans ce, puisque c'est vraiment full original, donc c'est vraiment notre histoire, on n'est même pas parti d'un bouquin, etc. Parce qu'il y a beaucoup de pièces qui sont créées comme ça et qui sont super d'ailleurs.
Oui, on a beaucoup d'adaptations de Alice au Pays des Merveilles que j'ai reçu cette année. Exactement. Ou d'autres contes souvent qui sont interprétés pour les enfants. Ouais. Donc, c'est vraiment une création originale avec une histoire originale.
Voilà, c'est ça exactement. Donc en fait, on a créé la forme en même temps que le fond, on s'est demandé ce qu'on voulait voir et comment on voulait le voir, donc on s'est vraiment posé ces deux questions de façon parallèle. Et du coup, au final, on s'est retrouvé avec un spectacle qui fait cette petite heure, du coup, 55 minutes à peu près, avec du coup l'incapacité à le montrer à des enfants trop jeunes, de par notamment cette longueur-là, en fait, tout simplement.
Mais alors, 55 minutes avec ce que ça engage physiquement, parce que comme tu l'as dit, c'est une pièce où j'ai l'impression qu'on bouge beaucoup, le corps est beaucoup en mouvement, et sachant que c'est très coordonné, puisque j'ai noté 300 effets sonores pendant le spectacle, donc sur 55 minutes, c'est... très temporisé. Comment on fait physiquement pour se préparer à ça ? C'est combien d'heures de répétition pour arriver au résultat et en tout cas à la pièce qu'on va voir lundi, mardi ?
Alors, on en parlait justement avec Lucas juste avant. Et effectivement, en termes de prépa physique, mon ami Lucas, lui, est circassien danseur. Il a vraiment une discipline là-dessus depuis des années. Moi, je suis plus comédien musicien, mais c'est vrai qu'en tant que comédien, je me définis plus comme un comédien physique qu'un comédien verbal. J'ai plus de facilité à aller dans le geste. Je fais un peu de cirque, un peu de danse contemporaine, etc. Donc j'ai toujours eu, on va dire, cette pratique-là qui m'intéresse et qui fait qu'on a aussi des endroits où justement, même nous, en tant qu'artistes, on se retrouve, où on se complète. Moi, je vais compléter par mon apanage de musique. Lui, il va plus compléter par son apanage circassien. Mais par contre, il sait jouer un peu de musique et je sais faire un peu de cirque. Et donc du coup, on peut avoir des moments où tous les deux, sur scène, on peut faire la même chose. Et après, pour le spectacle en lui-même, là, c'est 2 ans et demi de travail à peu près, donc qui correspondent à une dizaine de... plus ou moins grosses semaines de résidence, de travail, d'écriture, de beaucoup de travail au plateau, en fait, de tester les choses, beaucoup en parallèle et en plus de ces résidences-là, de travail sonore, justement, qui est de faire en sorte que, justement, on puisse dire « Ah, on a trouvé ça, comment on va le souligner ?» ou à l'inverse, faire une antithèse grâce au son. Et effectivement, comme tu le disais, il y a... dans tout et pour tout 300 ans top son parce que en fait il y a des ambiances aussi sonores tout du long de la pièce, donc quand on est devant l'école il y a des parents qui parlent, quand on est dans la récréation il y a des enfants qui jouent, quand on est en cours il y a des enfants qui grattent leur stylo, donc il y a vraiment en fait on fait jouer ce qu'on appelle le hors-champ énormément, de dire on est que deux sur scène mais tout autour il y a une dynamique, une agitation perpétuelle parce qu'il y a la classe, il y a la cour,
il y a une école,
voilà, ça, ça vit quoi, on est pas... donc c'était vraiment un but sonore de mettre ça en place, donc ça on va dire que c'est le monde sonore réaliste. Il y a le monde sonore qui va être plus de l'ordre justement du cartoon, qui va être d'associer des gestes et des sons, là à peu près de tête il y en a une petite centaine, 90, où effectivement on a vraiment le régisseur du coup qui est avec nous et qui a fait la créa avec nous.
Régisseur de compète, hein, j'imagine.
Régisseur de compète, ouais, alors là, Virginie...
Pour tenir 90 sons avec les timings et tout, c'est...
C'est un homme en or, et en plus, on en arrive vraiment à se poser des questions du type « Ah, quand tu prends le verre, il y a le son. Oui, mais est-ce que c'est quand tu vas prendre le verre? Est-ce que c'est quand tu saisis le verre? Ou est-ce que c'est quand tu lèves le verre ?» Voilà, parce que du coup, il y a vraiment ces questions-là de dire s'il y a un son qui tape au bon ou « Ah mince, c'est un peu trop tard », c'est vraiment des effets scéniques à effectivement réaliser, et si jamais ça marche pas... Tout le monde se dit « Ah, je vois ce qu'ils ont voulu faire, mais... Bah, »
Rendons hommage aux régisseurs qu'on ne félicite jamais assez, puisqu'on ne fait que les critiquer et se moquer d'eux quand ils se trompent, ce qui arrive aussi, puisque c'est ceux qui ne travaillent pas, qui ne font pas d'erreurs. Mais franchement, quand ils font le travail, moi, je sais que je suis allé voir des pièces de théâtre où je me suis dit « Mais la personne qui est derrière, elle a fait autant de travail que les personnes sur scène, là, ce soir. »
Exactement,
vraiment une... Il faut être concentré dans le moment tout le long, quoi.
C'est vraiment son cas, et en plus, on a vraiment fait cette création sonore à deux. Moi, effectivement, j'avais la partie plus musicien et de composition. Mais lui aussi a composé des choses. Enfin, vraiment,
en plus,
il se contente pas juste entre guillemets d'appuyer sur des boutons comme on dit mal, parce que même ça, effectivement, je voudrais bien voir parfois certaines le faire avec brio, comme tu dis, de façon totalement au bon endroit en fait, au bon moment.
C'est rendre hommage à ces hommes et femmes qui sont dans l'ombre, mais pourtant qui font autant pour le théâtre.
Et comme tu dis, sans qui ça n'existerait pas quoi. Enfin, effectivement, nous, il y a beaucoup de gens et de public qui viennent le voir à la fin des représentations, qui viennent lui dire attends, mais c'est quoi ça, c'est toi qui envoie, etc. Alors il leur explique parce qu'il aime bien en plus. Justement détailler les dessous de tout ça et de toute cette machinerie qui est assez intense, effectivement.
Alors, cette pièce, donc, ce résultat de centaines d'heures de travail et de 2 ans de préparation, elle va se dérouler au théâtre Divaldo, c'est bien ça ?
Divaldo, oui.
Divaldo,
pas
aujourd'hui, c'est vendredi.
Ouais, c'est vendredi, on est tranquille. Mais c'est au théâtre Divaldo, ouais, qui est un théâtre assez référencé, effectivement, en jeune public sur Marseille. Et on est super contents parce que, du coup, c'est nos premières dates, donc on remercie Audrey qui nous a fait confiance à ce sujet et qui nous a dit « Venez... ma fille, en fait, cocassement, on faisait des sorties de résidence assez régulièrement dans nos résidences pour faire en sorte justement de confronter un peu l'œuvre au public.
Normal.
Au jeune public notamment. De dire, voilà, on joue, on fait notre truc, mais on reste pas dans notre garage. À la fin, on s'expose. Bon, on sait que c'est pas fini et tout ça, mais il faut pas le voir comme fini. Mais le but, c'est quand même de pouvoir commencer à apprécier un peu comment ça résonne. Et en fait, cocassement, sa fille, cette directrice, donc, était dans le public d'une des sorties de résidence et elle est revenue... toute contente apparemment auprès de sa maman en lui expliquant que c'était super. Donc, bien sûr,
c'est une influenceuse de spectacle jeunesse.
Voilà, mais en plus, vraiment pour notre plus grand plaisir, et on la remercie bien sûr énormément. Mais du coup, c'est super de voir que ça plaît, que ça marche et que ça a du sens, surtout parce que nous aussi, c'est un public qu'on ne connaît pas. Autant écrire des pièces, etc. Enfin, on se situe à peu près, on ne va pas dire qu'on en a l'expérience et l'habitude. Mais là, écrire réellement, notamment pour les enfants et les concerner, et être à leur endroit, c'est-à-dire de plaisir, de doute, de frayeur aussi. Enfin, être tranquillement sur tous ces potards-là et pas y aller trop, en fait, et vraiment parler de ce dont ils ont envie de parler eux aussi, à travers justement par exemple les problématiques d'apprentissage, les problématiques sociales de l'école, enfin, de dire vraiment voilà, qu'est-ce qu'après on va pouvoir après peut-être extraire de ce spectacle en termes de pédagogie, parce que le but c'est aussi justement d'avoir toute une facette aussi de médiation et d'atelier autour de ce spectacle. Donc de dire comment en amont ou en aval on va travailler avec les classes et les élèves et pouvoir aussi à la fois parler du cirque, de la danse, de la musique, et ça c'est justement tout l'intérêt qui est qu'on va dire une panoplie riche de disciplines, mais aussi de pouvoir parler du fond du coup du spectacle et de dire la différence, l'autre, quand quelqu'un a raison, qu'est-ce que vous faites, quand quelqu'un a des bonnes notes, qu'est-ce qui peut se passer, et comment vous comportez entre guillemets avec peut-être telle ou telle situation qui sont des fois des situations très glissantes et possiblement dangereuses. Je parle en termes traumatiques potentiellement sur les enfants.
Donc c'est du divertissement où les enfants viennent apprendre. C'est un peu ce qu'on peut offrir de mieux aux enfants aujourd'hui.
C'était le but, ouais. Tout à fait, ouais. D'être ludique et d'être, on va dire, intéressant avec un double niveau de lecture. Ouais.
Et la question que j'avais, c'est justement comment on se positionne face à un public enfant qui change. Parce que moi, je me rappelle de... Enfin, mes souvenirs sont assez flous, mais je me rappelle de comment j'étais à peu près enfant et de mes préoccupations à cet âge-là. Mais est-ce que les préoccupations et les enfants d'aujourd'hui sont les mêmes que ceux que vous étiez il y a 20 ans? Est-ce qu'il y a des changements, justement, ou comment vous avez essayé de capter cette vibe?
Bah, si je dois être totalement honnête, on n'a pas tout compris. Et c'est le but aussi de continuer à s'y intéresser. Justement, c'était l'occasion de ces sorties de résidence devant public, généralement de aussi générer un bord-plateau, mm-hmm. c'est-à-dire un moment en fait, d'échange entre les enfants et nous, et où on est vraiment là pour accueillir leurs questions. Et du coup, à travers ça, essayer de comprendre leur interprétation, leur réception de l'objet artistique. Et de dire voilà, ok, c'est intéressant, un tel a pointé ça du doigt, un tel à l'inverse. Des fois on a des questions qui sont d'une pertinence.
J'aimerais bien savoir justement quel type de questions vous avez reçues dont tu te souviens en tout cas.
Récemment je me rappelle ce que j'ai bien aimé dans le film, mm-hmm. donc la petite fille disait qu'en fait elle voyait la pièce qu'elle venait de voir comme un film. Donc c'est assez rigolo, il y a des fois des déformations qui se créent, où il y avait une fille qui nous a fait aussi une réflexion sur alors là je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est des éléments techniques du spectacle, mais vraiment presque que c'était de la mise en scène. On était en train de la regarder en disant ah ouais, ok, ouais. Ça marche. Eh ben ouais, c'est une super question. On se regardait un peu. Ouais, qu'est-ce qu'on pense? Qu'est-ce qu'on lui dit? Ouais, bon, vas-y, réponds-toi. Non, vas-y, toi. Non.
Elle est clairement plus compétente que nous.
Oui, bah, si tu veux venir à notre place, n'hésite pas. Clairement, ouais, il y avait vraiment ce truc-là. Et c'est hallucinant, ouais, c'est hallucinant. C'est vraiment une compréhension qui est très. En fait, c'est pas du tout intellectualisé, c'est ça qu'il faut. Même dans ce cadre-là, où c'était digne de la mise en scène, etc., et ça pouvait avoir un apanage très, très compétent, justement, machin, c'était très spontané. Ça reste toujours frais. Leur compréhension, elle est très concrète, de dire « Mais pourquoi il se passe pas ça, alors qu'il se passe ça juste avant ?» Et nous, dans notre esprit d'adulte, effectivement, on met en cause les choses. Mais là, on est vraiment sur une réception qui est... frénétique, quoi. Mais c'est absolument génial. Enfin, parce qu'il y a toujours beaucoup d'enthousiasme en plus à ça. Beaucoup de sérieux.
Ah bah oui, les enfants prennent les choses très sérieusement. Voilà. Quand on parle avec eux, on est toujours. Moi, on le sait ici à la radio, puisqu'on organise des ateliers avec des enfants, et on a souvent des retours sur les préparations d'émissions, etc. Et à chaque fois, pareil, je suis bluffé par leur niveau de. Leur regard qui est souvent beaucoup plus pointu que le mien, ou en tout cas où je me dis ça ils l'ont mieux compris que moi rapidement, mais c'est vrai qu'il y a, c'est la fraîcheur peut-être de la jeunesse. On l'explique comme ça.
Oui, voilà. En tout cas, ouais, il y a vraiment... C'est très spontané, ouais. C'est très éclairé.
En tout cas, on a hâte de voir ce spectacle. Donc, il se déroule le lundi et mardi, donc 23 et 24 février, au théâtre Diva de l'Eau.
Tout à fait.
Voilà. Comment on prend sa place? Combien ça coûte?
On est à 8,90, je crois, la place.
Ça reste raisonnable.
Ça reste raisonnable, tout à fait, même pour une famille, etc. Et on joue à 14h30 et 16h30, c'est les deux jours, donc, respectifs. Et la place est prenable en ligne sur Biriaduc, voilà.
Voilà, donc si vous cherchez à occuper vos enfants ou même vos plus grands pendant ces vacances, vous le savez, donc c'est lundi et mardi au théâtre Diva de l'Eau pour découvrir le spectacle Cartable Rouge de la Compagnie d'Une. Michael Bourse, merci d'être venu dans nos studios.
Merci à toi, vraiment, c'est génial pour l'accueil.
Bah, grand plaisir et bon courage pour cette première, deuxième, troisième et les dizaines qui vont suivre.
Ouais, on espère effectivement que la suite, à bon entendeur, que la suite va être fournie et intense. Ouais.
Ah bah, excellente journée à toutes et tous sur Fréquence Mistral ou ailleurs.